Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 143. Mon nom est Paul Andriau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Leplan.
Ça fait un petit bout qu'on n'a pas enregistré, on a des horaires tous très chargés, des automnes occupés à venir,
ouais.
Et l'actualité aussi est très occupée, donc on va aller rapidement avec plusieurs nouvelles dignes d'intérêt, parmi tant d'autres, hein, c'est juste qu'on fait un petit résumé rapide.
Mm-hmm.
Donc aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à l'heure où on enregistre, mardi, donc le 16 août, le FFM a dévoilé sa programmation.
Ah ouais, ok, c'est sorti. Je savais même pas que c'était sorti.
Hey, j'ai même pas vu ça, moi non plus.
Ouais, du moins, une partie de sa programmation. Donc, la compétition mondiale des longs et courts-métrages a été dévoilée, ainsi que le programme des premières œuvres du okay. côté des longs-métrages. On parle donc d'environ une quarantaine de longs-métrages et une douzaine de courts. Ça a été un peu dévoilé en catimini. En ce moment, je le sais qu'il y a très peu de gens qui travaillent au FFM. Les bureaux sont pas mal vides. C'est comme dans 9 jours que c'est censé commencer, puis il y a encore très peu d'infos. Les billets vont être en vente dès ce samedi au Cinéma Impérial, au Cinéma Forum, ainsi que sur le site web du Festival des films du monde au ffm-montréal.org.
Attends. Là, tu t'en parles, là, puis ouais. Je vais sur mon ordi, sur le site.
Ouais.
Je clique sur programme, find a movie.
Ouais.
Puis il me dit qu'il peut pas trouver de film.
Non, mais il faut pas que tu aies dans find a movie, parce qu'ils sont pas encore programmés selon les journées. Là. Mais tu vas dans la page d'accueil, tu as les communiqués. Puis okay. là, aujourd'hui, tu as eu 4 communiqués différents qui n'ont pas été partagés sur les médias sociaux du FFM, parce qu'en ce moment, il n'y a aucun employé qui s'occupe de ça.
Shit!
C'est sorti dans l'indifférence totale.
Ah, mais total, là, tu sais, je veux dire, ça fait aucun sens qu'on ait pas vu ça passer, là.
C'est un festival de films, là, genre, on est au milieu de tout ça, là, on devrait l'avoir reçu, là.
Mais bon,
hey, ouais. Juste vous dire, ma section préférée sur le site du Festival des films du monde, c'est certainement Make a Donation.
Ouais.
Ah ouais, ouais.
Ceci dit, écoutez, moi, quand même, ouais. parmi les sélections, en ouverture, on le sait déjà que c'est Embrasse-moi comme tu m'aimes, le nouveau film ouais. d'André Forcier, qui met en vedette la moitié de l'UDA.
C'est cool à l'os, ça.
Non, mais, non, mais honnêtement, tu sais, pourquoi pas? André Forcier a un univers unique, puis c'est un cinéaste quand même québécois, je pense, qui a bâti un peu sa carrière, puis son univers.
Beaucoup. Ouais. À une certaine époque, Forcier, je veux dire, c'était comme un vent de fraîcheur dans une sécheresse, là, au niveau de... Tu sais, je veux dire, c'est un auteur qui a tellement pas de compromis, tu sais, il a vraiment réalisé des grandes œuvres, des œuvres audacieuses, tu sais... Non. L'héritage d'André Forcier n'est pas à défendre. Par contre, tu sais que le nouveau film de Forcier s'associe au FFM. C'est un peu comme genre, je sais pas là, surfer sur une baleine morte là. c'est comme, je sais pas qu'est-ce que t'essaies de gagner à faire ça. Mais bon, encore là.
Oh mon dieu.
Voyons. Mais non, mais désolé, mais crime, on va dire les vraies affaires.
C'est cool. Ouf. C'est cool qu'il ait pris un film québécois, là. Tu sais, c'est encore oui, mieux un film de crocodile géant, là.
On se rappellera toujours Croxilla, qui est d'ailleurs, je pense.
Croxilla qui ouvre le FFM, là. On s'entend que c'est un peu triste, là.
Ouais, je sais pas si c'est encore sur Netflix, mais il l'était pendant un moment.
Il est encore. J'ai toujours pas regardé ça.
Moi, j'avais vu à sa première au festival, là, Never Forget. Hashtag Croxilla. Mais quand même, tu sais, parmi la programmation de films, tu sais, il y a sûrement des choses qui vont être surprenantes.
Ah, ben c'est sûr, ben oui.
Moi, je vais y aller un peu, j'essaie d'aller voir des films. Et d'ailleurs, il y a le nouveau film de Dai CG, je ne sais pas exactement comment prononcer son nom, le réalisateur chinois qui avait fait l'adaptation de Balzac et La petite tailleuse chinoise.
Ok, ouais.
Donc, son nouveau film, une coproduction Chine-France, Le Pan de Nuit. Alors, ben ça, je suis curieux, hein, j'ai hâte de voir. Donc, sur ce, allez au ffm-montréal.org pour connaître les détails, parce que c'est...
Tu sais, ça me fait rire, parce que d'habitude, c'est comme... Puis vous, les gars, qu'est-ce que vous avez vu dans la programmation? Puis là, mettons que c'est Fantasia, on en parle pendant un épisode complet. Puis c'est comme, moi, j'ai vu un film du réalisateur de Balzac et la tailleuse, fait que c'est ça, là.
Ouais.
Ben, écoute, Rémi, si tu veux, je passe la parole, je te la passe, là.
Non, mais j'ai rien à dire, c'est ça l'affaire, c'est ça qui est drôle, là. C'est que si tu me disais, pis vous, les gars, je serais comme, ben, ma colisse.
Non, mais tu sais, dans un sens, encourage la découverte, c'est pas. C'est, pis comme on dit à chaque année, tu sais, faut pas être complètement de mauvaise foi, parce que c'est sûr qu'au final, il y a des bons films, tu sais. C'est juste que Il n'y a tellement pas une rigueur de programmation, tu sais, puis de standards de qualité. Tu sais, c'est ça finalement, c'est que la qualité moyenne du FFM, c'est pas, tu sais, comment dire, c'est pas aussi excitant, tu sais. Parce que, mettons, prenons Fantasia, tu sais, des fois, oui, il va y avoir des films vraiment de moins bonne qualité, mais tu veux dire, on dirait que la foule compense, l'effet d'entraînement compense, tu sais, tu vois des choses audacieuses, t'aimes vraiment pas tout, là, quand tu vas voir des films à Fantasia. Il y a plein de films, tu sais, qui sont, que tu t'en ressors, puis, tu sais, que t'as pas aimé, mais c'est bien correct, tu sais, au final. C'est pas ça la question non plus, c'est juste. C'est ça, l'indifférence. C'est vraiment là, c'est le meilleur mot-clé, tu sais. C'est sûr qu'il y a des bons films, c'est sûr qu'il y en a des moins bons, mais bordel, comme pour déplacer les gens, pour que les gens fassent part à un festival. Le festival, c'est
Ouais, non,
festif,
c'est
on le dit
ça.
souvent, tu sais. C'est comme l'indifférence, man, c'est ça qui tue. C'est plus encore que un forcier en ouverture ou, tu sais, ça, il peut avoir des bons films, il peut même faire des bons coups à droite à gauche, mais de sortir sa programmation avec autant de. Sans rien, là, aucune
C'est ça,
pompe, aucune
c'est
trompette,
beaucoup.
rien, là, c'est comme.
C'est triste pour les cinéastes aussi,
Ouais,
en
c'est triste
fait,
pour les
là.
cinéastes
C'est.
aussi, ben oui.
Tu sais, t'envoies ton film à un gros. Tu sais, tu dis que c'est un gros festival, ça va être cool. Les cinéastes qui viennent de partout dans le monde, si on s'en va à Montréal, puis tu vois qu'il n'y a aucun buzz autour du festival, aucun buzz autour de ton film, là. C'est un peu triste, là.
Effectivement.
Ouais. Donc voilà, là, je sais pas qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus, mais tu sais. Pour les curieux, nous autres, tu sais, s'il y a des gens qui vont voir des films puis qui ont trippé sur certains films puis qui, tu sais, comme partagez-nous ces infos-là, c'est le fun, on les court un peu ces films-là puis les découvertes. Mais est-ce que je vais être la première personne au combat, tu sais, pour voir 50 films puis espérer en trouver trois vraiment bons là-dedans? Non, tu sais, désolé, c'est aussi triste que ça. Donc, ouais, voilà.
Un autre
J'ai fait ma
festival montréalais de films sortait une nouvelle aujourd'hui. Qui a été reliée, celle-ci. Le FNC, donc, inaugure une nouvelle section, la section Explore, qui, donc, s'intéresse beaucoup à la réalité virtuelle cette année, avec, il y aura plusieurs œuvres de réalité virtuelle qui seront disponibles gratuitement pour le public. Pas besoin d'acheter de billets pour ça. Il faudra sans doute faire des files d'attente, j'ai l'impression. Et on imagine bien donc que Explore va évoluer au fil des années si la section revient, à mesure que ce médium-là est développé. Il va y avoir aussi des conférences gratuites sur le sujet, sur le nouveau médium. Il y a également le cinéaste qui avait fait les documentaires interactifs, Fort McMurray va être là notamment. Donc, vous les gars, là, le VR, là, vous n'avez essayé un peu. Je sais que Pascal, tu en parlais récemment. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez mettre à votre agenda pour le prochain FNC, d'aller explorer un peu des petits films comme ça? Est-ce que vous avez des attentes face à ce médium?
Ben moi je suis old school, fait que tu sais avec le non non mais avec le FNC je pense que je vais prioriser ben c'est ça là tu sais bref les nouveaux films de tous les cinéastes que j'admire. Je veux dire, tu sais, c'est une question de temps, mané, puis tu choisis tes combats. Je suis pas le premier en file, tu sais. Je suis pas le plus gadgetteux. Fait que ça, c'est
Non,
vraiment
c'est
juste
ça.
moi, personnellement. Par contre, tu sais, j'en avais essayé. J'avais eu des belles expériences de VR. Oui, notamment à Sundance, mais tu sais, et depuis, tu sais, puis ça prolifère aussi. Il y en a de plus en plus. Donc, et même des belles expériences, je veux dire, tu sais, puis j'encourage les gens à l'essayer. Mais je vais préférer, je sais pas, voir un nouveau film de Zia Jankee ou de nommons n'importe quel cinéaste, tu sais, je sais pas, mondial que la FNC met souvent en valeur. Je vais avoir tendance à plus courir les films. Mais ça, c'est juste moi.
Toi, Rémi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, le VR?
Ouais, ça m'intéresse à long terme. J'ai manqué, malheureusement, la section Fantasia, là, ils en ont eu, puis j'ai vraiment aimé ça, voir ça, mais. Ouais, mais c'est ça, c'est comme dit Pascal, c'est un peu un gadget là, pour l'instant. On veut c'est une belle exploration, mais il faut vraiment t'sais, prendre le temps dans le festival d'aller visiter la section, là. Fantasia, c'était ouvert, je pense, un week-end. Puis on a juste vu tellement de films que finalement on est passé à côté. Mais
C'est
c'est.
ça.
Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, même peut-être dans le futur, raconter une histoire à maner avec du VR. Je trouve que
Donc,
c'est
en tant
tellement
que
un médium
créateur, là.
intéressant. En tant que créateur, je trouve que c'est vraiment un médium intéressant parce qu'il faut que tu réfléchisses autrement ton histoire. J'ai même mon petit Google Cardboard, là, ça coûte comme 20$ sur Internet. J'étais curieux, là, tu peux. Il y a quelques applications pour explorer avec, là, mais c'est pas encore rendu super loin, mais c'est cool, là, ça s'en vient, là. Je pense qu'il faut être à l'affût, mais ouais, FNC, si l'occasion se présente, je serais bien, bien intéressé à voir ça, là.
Mais j'en avais parlé un petit peu, tu sais, à Sundance, moi j'avais vu quelque chose qui m'avait vraiment bouleversé. C'était un documentaire sur l'Ebola. Puis le fait que ce soit en VR, on disait que. On avait une expérience tellement nouvelle avec les images que tout à coup, on dirait que le corps du film, le cœur du film, puis dans ce cas-ci, tu sais, c'est souvent des enfants, des gens malades, tu sais, sur l'Ebola, je veux dire, c'est assez dark là, comme sujet, on va se le dire. Mais mon Dieu, que ça m'a vraiment bouleversé, puis je me suis demandé, c'est pas un report, puis c'est des courts-métrages, là, finalement, tu sais, c'était un 6 minutes documentaire. Puis je me suis vraiment demandé, crème, est-ce qu'un court-métrage, tu sais, traditionnel, là, documentaire, 2D, cinéma, prise de vue réelle, aurait pu me brasser autant? Je me suis sérieusement posé la question. Ben, peut-être pas, tu sais, mais c'est peut-être l'effet de nouveauté, tu sais, je veux dire, quand le train est arrivé à Ciota, c'était autre chose que maintenant, tu sais, c'est ça que je veux dire. Fait,
Puis est-ce que
on
vous
a quand
savez,
même...
moi, ce que je pense qui pourrait être vraiment
Vas-y.
incroyable pour cette plateforme-là, selon moi, le futur du VR va passer par les making-of. Parce que, tu sais, comme là, mettons, il y a la nouvelle série de Baz Luhrmann à Netflix, The Get Down.
Ouais, qui a
Que...
coûté une fortune, là, qui est comme
Ouais, c'est ça.
une des plus grosses productions télévisuelles ever, là.
Ouais, puis j'ai pas, je l'ai pas encore commencé, mais j'ai eu beaucoup de déco positif, puis à quel point c'est impressionnant. Puis je pensais au cinéma de Baz Luhrmann, puis à quel point ça devait être fascinant être sur ces shows, tu sais, comme The Great Gatsby ou Moulin Rouge ou ces trucs-là. Et je me disais, le VR, man, c'est parfait pour ça, là. Imagine, tu sais, mettons le nouveau Transformers, là, je m'en fous un peu de le voir. Mais une expérience VR, là, t'es sur le set à côté des acteurs, il y a une scène qui se passe, il y a make-up artistes qui courent, ou tu sais, tous ces trucs-là, je me dis ça peut vraiment être fascinant. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, Pascal, au niveau du documentaire, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait pousser la formule du documentaire très loin. Donc, ouais, si jamais quelqu'un fait un making-of avec une caméra VR, je serais vraiment intéressé de voir ça.
Non, c'est vrai, c'est en fait ça donne plein d'idées ce que tu dis, c'est vraiment une
C'est un
bonne
super bon
idée, tu
cas,
sais.
ouais.
Tu irais je sais pas là, tu sais, passer une journée avec c'est Scorsese sur une
Ben
scène de je sais
oui.
pas de silence avec les tu sais, oublie ça, man, c'est sûr que tu as envie d'être là, puis tu fais le VR, tu check autour,
Ouais,
c'est
ouais.
ben
Puis je
oui,
pense après
exemple
devenir.
là, j'ai nommé un
Ouais.
film qui m'excite beaucoup,
Ouais.
mais tu sais, nommons-les ces films-là,
Ouais.
c'est sûr que ça marcherait là.
Puis même si ça serait à portée promotionnelle, tu sais, l'impact d'une telle promotion pour moi serait tellement fort. T'sais, imagine tu visites le set de Star Wars avant tout le monde, tu sais, comme des mois.
Ouais.
En tout cas, moi je pense que vraiment là, il y a quelque chose à faire là. Autre chose, Pays, le deuxième long métrage de notre amie Chloé Robichaud, ouvre le Festival de cinéma de la Ville de Québec.
Ouais.
Donc ça c'est très bien, on a très hâte de le voir d'ailleurs. Puis là, d'ailleurs là, je me tâte savoir si une fin de semaine je monte pas à Québec pour aller voir une couple de films au
Ah.
festival. On se parlera ça les gars, si jamais ça donne qu'on puisse monter ensemble.
Ouais, bah oui.
On checkera ça. Autre chose, cette fin de semaine, vendredi et samedi, il y a une espèce de projet un peu fou de Fabrice Laroche-Francoeur auquel je participe. Ça s'appelle le prétendu Caspar Hauser. Et qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de tournage multimédia. Donc, on tourne le film sur 2 jours. C'est censé être une espèce de court-métrage de 30 minutes.
OK.
Et tout le tournage est disponible sur Facebook Live, sur la page du film. Vous avez juste à aller chercher sur Facebook prétendu Caspar Hauser. Et dans le fond, j'agirai en tant que. Il m'a demandé d'être une espèce de journaliste, slash narrateur, slash accompagnateur. Donc, moi, j'ai un peu erré sur le tournage pour un peu faire découvrir au public c'est quoi un tournage de cinéma. Et un peu interroger les acteurs, les artisans, ou seulement être témoin de ce qui se passe et de répondre aux questions des gens. Donc, les gens vont pouvoir écrire des commentaires Facebook et moi, j'essaie de répondre pendant ces 2 jours-là aux questions. Et il devrait y avoir un caméraman avec moi. Et on va essayer de faire des lives pas mal pendant tous les 2 jours pour ce tournage-là. Et un mois plus tard, donc, le film sera projeté au Théâtre Outremont, là même où il est tourné. Donc, une espèce de projet. Je suis embarqué là-dedans un peu. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je suis un peu sceptique, mais en même temps, j'aime les idées qui sortent de l'ordinaire. Donc, je vous donne rendez-vous là-dessus. Maintenant, on n'a pas eu le temps de jaser. La dernière fois qu'on a parlé, les gars, c'était à Mi-Fantasia. Depuis ce temps-là, il s'est écoulé de l'eau sur les ponts. Il y a des prix qui ont été remis. Je suis très content d'avoir participé au jury des courts-métrages, d'avoir pu remettre des prix à des cinéastes québécois, cinéastes et cinéastes E. Donc, ça, c'est toujours très bien. Et là, je veux savoir un peu si vous aviez des petits retours sur Fantasia, sur la deuxième moitié. Je sais que toi, notamment, Pascal, tu avais vu le film Opération Avalanche de Matt Johnson.
Ouais, ben avec Rémi, en fait, Rémi était aussi là dans la salle et ouais, on peut en parler de ça, c'est certainement parce que moi la dernière fois c'était assez, j'avais un bilan assez désastreux, on s'en rappellera. J'avais à mi-Fantasia, j'avais toujours pas vu de film, donc au moins ça a remédié à ça. Et je te coupe l'herbe sous le pied un peu, Paul, mais il y a aussi The Wailing, là, le film coréen d'horreur qui avait quand même fait sensation à Cannes notamment, puis c'était un
Tu sais, le film d'horreur de Fantasia, non?
Ouais, ben non, c'est ça. Donc, en tout cas, bref, on l'accrochera
T'as vu
peut-être
pas mal,
après, là.
genre, deux
Mais.
dans mes tops, là.
Bon, ben écoutons.
J'ai pas encore
Parfait.
fait mes devoirs, là. Je vais essayer de me faire mon journal de bord de Fantasia, comme je fais à chaque année, mais ça va être avec un petit délai, là. Mais moi, justement, Opération Avalanche, pour voler un punch à ceux qui écoutent le podcast, c'est mon numéro un sur ma liste. C'est pas mal le film qui m'a fait le plus triper cette année, fait que. C'est très, très bien qu'on puisse en jaser, Pascal.
Non, mais c'est ça, c'est le deuxième long métrage de Matt Johnson après The Dirties. Puis c'est un film qui, d'un côté, offre beaucoup de similitudes, puis d'un autre côté, on est totalement ailleurs. Matt Johnson, donc scénariste, réalisateur, mais aussi acteur principal des deux projets. Puis il partage la vedette avec Owen Williams, et c'était aussi son acolyte dans The Dirties. Fait qu'un genre de film alter ego, tu sais, dans une sorte. De quelque sorte. Mais là, Opération Avalanche nous amène complètement dans une pastiche d'époque. On est à la fin des années 60 et c'est la course à l'espace, la course à la Lune entre les Russes et les Américains. Et de fil en aiguille, en tout cas, ce duo-là improbable dont Matt Johnson fait partie se retrouve à la NASA pour dresser un bilan là, de qu'est-ce qui se passe par rapport à la course à la Lune. Et lorsqu'il apprend que les Américains ne réussiront pas avant la fin de la décennie de mettre un pied sur la Lune, tel que promis par JFK au début de la décennie, eh bien, il part un peu l'initiative complètement folle de mettre en scène l'alunissage. Complètement folle, oui puis non, hein, parce que c'est un peu des conspiracy theories qui ont perduré. Il y a toutes sortes de tout quoi. Tu tapes ça sur Google, puis ils t'en sortent des vers puis des pommures. L'angle de Matt Johnson est très intéressant, en fait. C'est qu'il n'est pas vendu par la conspiracy theory. Il n'en fait pas du tout un film de propagande. En fait, toute l'équipe du film ben, croit évidemment à la trame officielle. Hein, t'sais, bon. Mais la possibilité, ou du moins de pouvoir créer, c'est là le côté fictionnel de tout ça, pouvoir créer un univers où les personnages agiraient selon cette logique-là, ben ça donnait lieu finalement à un film avec des situations en or. Puis là, c'est ça part un peu boboche. Là, ils veulent faire, au début, ils veulent prouver leur plan, que c'est qu'ils sont capables d'atterrir et tout. Puis là, a le feu vert officiel, tu sais, de la part de des membres vraiment importants de la NASA. Puis là, tout à coup, ce qui était un peu une idée farfelue devient un peu le scénario plan A de la NASA. Puis ça, c'est très, très, très drôle. Mais le film prend une autre tournure. Donc, je dirais que la première moitié, il y a beaucoup d'humour. Matt Johnson lui-même, je pense qu'il y a un certain charisme qui pousse le sourire là,
Beaucoup
définitivement.
d'improvisation, là, puis ça paraît en plus.
Ouais, c'est ça, beaucoup d'impro, ça c'est sûr, mais par contre, la deuxième moitié, on est vraiment dans des codes de thriller. Je pense que, tu sais, il y a tout le temps des posters de films en arrière-plan qui dévoilent, qui vendent un peu la mèche de toutes les influences possibles du film, tu sais, notamment Doctor Strangelove, des films, ben, tu sais, Kubrick en général, mais tu sais, plein de films de Manchurian Candidate, probablement une des influences les plus importantes, là, tu sais, une fois que le film prend une trame plus thriller, probablement. Et là, le film, bordel, il s'en sort bien parce que The Dirties fonctionnait parce que c'est un buddy movie. T'sais, ils sont vraiment drôles ensemble. Les références, eux autres, ils se lancent des références de culture pop. Ça rit, ça fait rire, c'est contagieux. Là, tout à coup, vois-tu, on est dans un contexte plus sérieux, même si la prémisse est farfelue. OK? Mais, bordel, ça marche. Il y a une poursuite de char. J'en avais un peu parlé parce que les gars, moi, je les avais rencontrés, là, les principales personnes, tu sais, derrière la conception du film. Puis ils m'avaient vendu la mèche. Ils m'avaient dit, on a vraiment une poursuite de char dont on est fier. Et je confirme, C'est une espèce de poursuite de char, pas de bon sens, en one take, là. En tout cas, faut un peu le voir pour le croire, ça aussi.
Donc, ils l'ont fait cowboy, en fait.
Ouais, ils l'ont fait.
Ce qu'ils ont dit à Fantasia, c'est que justement, ils avaient pas les moyens de faire quelque chose avec des cascadeurs, puis avec une vraie mise en scène. Fait qu'ils se sont juste lancés dedans, puis c'est Matt Johnson qui conduit, puis il y a comme. C'était sans filet, là. C'était vraiment.
On l'a fait,
puis that's all, là.
Mais donc, c'est que ça crée encore.
Indie style.
Ouais, c'est indie style, puis il y a une mise en abîme parce que c'est tellement cowboy comment ils l'ont fait que ça peut pas ne pas transparaître à l'écran, tu sais. Puis la cam, puis en plus, c'est un faux doc, là, Opération Avalanche, pour ceux qui ne savaient pas déjà. Mais tu sais, donc, la caméra, des fois, elle tombe, il y a un bump, il tombe par terre, il ramasse la cam, tout ça. Ils acceptent tout le côté nerveux, imprévisible et même quasiment maladroit, mais ça en fait une scène d'anthologie, j'oserais dire.
Ils ont tellement bien appris, en fait, à gérer le côté faux doc dans le premier film que là, dans celui-là, ils réussissent à aller encore plus loin avec ça puis à raconter quelque chose qui est peut-être une histoire un peu plus... loin de la réalité, là, mais ils réussissent à utiliser le faux doc pour vraiment construire leur trame narrative puis avoir quelque chose de très consistant. Puis il y a rien qui est non justifié. Tu sais, c'est des fois les problèmes des faux docs, c'est ça, mais là, tout est bien justifié avec la caméra, où elle est placée, qu'est-ce qu'ils vont filmer. Ouais. Puis,
Je dirais que peut-être le film souffre, peut-être aux deux tiers. Il y a un moment où on dirait que la nouveauté s'estompe peut-être un petit peu. Pourtant, j'y ai réfléchi, puis c'est pas parce que le film a du superflu. Tout ce qui nous est présenté, cadre très bien à la trame narrative. Peut-être donc c'est la façon comment c'est fait, parce qu'il y a, tu sais, exemple, il y a une scène à un moment donné où ils vont sur le set de 2001 c'est de l'espace, il y a une scène, parce que je veux pas trop en dire, mais il y a vraiment beaucoup de surprises. Puis il y a comme un moment dans le film, je te dirais, il y a peut-être un 20 minutes là aux deux tiers où on dirait que il y a un petit peu de la redite, il y a peut-être un petit peu moins de détours, et c'est peut-être là aussi où peut-être le pacing s'affaisse un peu, mais je veux dire, c'est un très bref commentaire négatif pour un film qui a vraiment des couilles. Moi, j'étais vraiment en pamoison devant le film. T'sais, c'est impressionnant. C'est vraiment un film qui... La pastiche est géniale. Ben, il y a tellement de talent à l'œuvre. J'oserais même dire du génie à l'œuvre.
Tu utilises vraiment la créativité, vu que c'est une production indie, tu vois, qui sont complètement fous. Puis, ben, l'histoire, en fait, qui est peut-être à raconter aussi, là, parce qu'ils en parlent, ils en parlaient dans le Q&A après, c'est qu'ils ont quand même tourné ce film-là à la NASA sans permis. Donc il y avait besoin d'avoir accès à des salles qui étaient utilisées à l'époque de la NASA pour pouvoir vraiment mettre en scène leurs trucs. Puis ils sont rentrés en costume dans des visites guidées, puis ils faisaient croire qu'ils allaient tourner un documentaire sur la NASA dans les années 60, années 60, fin 60, début 70, puis ils se sont infiltrés dans le fond. Ils demandaient, est-ce qu'on peut avoir un petit moment dans telle salle, on a besoin de... Juste un moment, juste prendre des photos pour notre documentaire quand on va le tourner. Finalement, ils rentraient avec leur caméra, puis ils tournaient une scène pendant 20 minutes, puis ils ressortaient de la salle, puis après, ils reprenaient la visite. Puis ils ont tourné des scènes comme ça en faisant des visites guidées à la NASA pour... C'est tellement malade comme truc, là. Tu sais, juste pour avoir le décor, puis que ça coûte pas trop cher. Puis...
Non, mais ça crée une bébite, justement. Donc, un film, encore une fois, qui est pas parfait, mais qui est tellement vivant. Tu sais, ce genre de film... donne envie de faire des films, Matt Johnson, il y a une énergie vraiment contagieuse, puis Opération Avalanche transmet cette énergie-là, moi j'ai vraiment trouvé. Fait que, tout thumbs up, Rémi et moi, pour Opération Avalanche, vraiment.
Comme quoi, ça paye parfois de viser la lune.
Oh, bravo!
Parlant de documentaire qui était à Fantasia, les amis, il y a un certain film qui a clos le festival, Mon ami Dino.
Ouais.
De Jimmy LaRouche.
Ouais.
Oh. Film québécois, donc, le pitch, c'est un documentaire sur donc l'acteur Dino Tavarone, qu'on a connu surtout comme pour avoir joué dans la série Omerta, grand succès de la télé québécoise de la fin des années 90. Et dans le fond, donc, l'acteur tombe malade et il est déjà âgé. Donc, on craint le pire et ses amis proches viennent le voir, sa famille, etc., pour finalement passer, raconter des souvenirs et peut-être passer ces derniers moments avec lui. Le film a amassé des critiques élogieuses de la plupart des journalistes et critiques québécoises. On parle d'une leçon de cinéma, des 4 étoiles par-ci, par-là, un grand succès, Tavarone qui nous rappelle qu'il est un géant du cinéma, tout ça. Mais je suis assez outré de ça, en fait, et je trouve que c'est important qu'on en parle parce que, tu sais, c'est assez bizarre l'ambiance. Moi, j'étais donc présent à cette fermeture du festival. Est-ce que vous étiez pas là à cette soirée de clôture?
Non, puis moi je l'ai pas vu non plus.
Toi, tu l'as pas vu. Pascal, toi, tu l'as attrapé par la suite en sortie régulière, c'est ça?
Non, je l'ai vu en projection de presse, donc je l'ai vu
Ah,
même
ok.
avant toi, au fait.
Ah,
Mais c'est
ok.
ça, mais pas de décorum, donc
C'est ça, parce
c'est
que
pas dans le
là,
même contexte.
tu sais, ce qui m'a dérangé un peu, puis je sais qu'il faut absolument pas comme amalgamer la personnalité d'un cinéaste et ses entrevues, ce qu'il dit, avec nécessairement son œuvre. Mais des fois, c'est quasiment impossible de séparer les deux. Surtout dans le cas d'un document, tu sais, d'un faux doc dans lequel il se met lui-même en scène. Tu sais, c'est un peu comme un Michael Moore qui présente son film. Tu sais, c'est dur de ne pas prendre position par rapport aussi au discours entourant le truc. Et Jimmy LaRouche se pointe donc pour la première mondiale de son film, tu sais, il faut le dire, en gougoune, avec une chemise rose un peu serrée, sa casquette, puis là, tu sais, il est comme ah, ben merci, là, c'est vraiment cool d'avoir Fantasia pour nous, tu sais, nous donner une tape dans le dos, puis tu sais, mes courts-métrages ont joué ici, puis c'est vraiment cool, puis on l'a fait avec rien, en 20 jours, ça a coûté 10 000 piastres, c'est le résultat d'une bière qu'on a eue, moi puis Dino, puis là, on a décidé de faire ça, tout ça. Puis vraiment un discours quasiment qui s'excuse à l'avance, puis qui dit j'aimerais, t'sais, que vous applaudissiez tous les artisans du film qui sont ici, au cas où vous aimez pas le film, puis vous les applaudissez pas à la fin, t'sais. Puis là, moi j'étais déjà outré, là. Comme je trouve que c'est tellement un manque de respect, puis t'sais, d'arriver là déjà défaitiste, là, puis un peu t'sais, bonhomme, c'est pas trop sérieux, puis c'est pas grave, si je suis une première, j'arrive en gougoune, puis t'sais, je veux bien croire que Fantasia, t'sais, c'est plus cool. Puis on est l'été, puis il fait chaud, tout ça. Mais il me semble que quand tu travailles autant sur une œuvre, en équipe surtout, tu sais, c'est pas un projet personnel, même si c'est un documentaire filmé à la première personne, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont contribué à ce film-là, puis ça m'a quand même déjà, ça m'a prédisposé à, disons, à être un peu en mode sceptique, là, face au film. Et
Défensive, là.
en mode défensif, là, c'est ça. Et le film n'a rien fait pour me faire changer d'idée, en fait. Le film, selon moi, se croit beaucoup plus malin que ce que c'est. Dès l'ouverture, qui est comme l'espèce de bande une des premières bandes-annonces qu'on a vues, t'as donc Jimmy LaRouche hors champ qui interroge Dino, puis qui dit « Ah, mets-toi de profil gauche, profil droit, puis maintenant je veux que tu pleures parce que j'ai vu dans un film célébrant le centenaire du cinéma qu'un comédien, blablabla. » Je me rappelle plus exactement c'est qui le nom du cinéaste, mais j'avais vu son film dans un séminaire, là.
Malbaffe, là.
Malbaffe, ouais, c'est ça.
Ouais.
Et puis là, il cite ça, puis là, ça se veut un peu comme s'inscrire un peu dans cette mouvance. Puis là, on parlait justement, il y a Kiarostami qui nous a quittés, t'sais, une espèce de cinéma comme ça qui franchit les ondes entre le réel et le faux. Mais, tu sais, ça fait vraiment citation de quelque chose que j'ai lu, mais sans en conserver aucune essence, tu sais, puis... Pour moi, ce film-là, c'est non seulement c'est esthétiquement et en tant que cinématographiquement nul, mais c'est encore plus loin que ça. Moi, je pense que éthiquement et moralement, ce film-là, c'est malsain. Notamment parce que, à un moment donné, bon, t'as Dino et il me semble sa mère, non, pas sa mère, sa femme qui présente des photos de famille. Puis là, il nous présente ses photos de famille, puis là, tu sais, c'est filmé caméra épaule, tout ça. Mais là, il y a des gros plans sur les photos, puis la caméra n'arrête pas de bouger. Plutôt qu'avoir pris le temps, mettons, parce qu'on s'imagine que c'est filmé tout en même temps, plutôt qu'avoir pris le temps, tu sais, en tant que documentariste, tu sais, 1 minute plus tard, une fois que la scène est finie, bon, on va poser la photo sur la table, je vais juste faire un gros plan, puis là, quand t'en parles, je vais le mettre ça au montage. Mais ça, il le fait pas. Et plus loin dans la scène, bon, là, plus loin dans la scène, ils vont rendre flou certains visages de gens qu'on imagine ne veulent pas se faire identifier dans le film. Ça va. Mais de pas oser prendre le temps de, genre, tu sais, filmer les photos comme il se doit pour qu'au moins tu puisses les voir comme du monde, moi, je trouve ça insultant et méprisant envers non seulement les gens qui le filment et les gens duquel ils racontent des souvenirs, mais envers le spectateur. On va voir un film sur grand écran, puis ce film-là, c'est dégueulasse. C'est comme la caméra bouge tout le temps sur des gros plans, puis c'est filmé n'importe comment, puis ce film-là, c'est laid. C'est fait pour le web ou c'est fait pour un petit écran, mais c'est pas du cinéma. Puis c'est pas parce que...
fait pour le web, là.
Ben, c'est-à-dire fait pour un plus petit carcan, tu sais. Puis même, puis tu fais bien de me reprendre, Rémi, parce qu'il y a des trucs pour le web vachement plus cinématographiques que ça, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce film-là, pour moi, c'est l'apologie un peu de, du moindre effort et de se dire, ah ben, au nom du, de la réalité du cinéma, puis tu sais, on, là, on va nommer le dogme 95, puis on va nommer ces grands principes-là, ben, c'est normal de faire ça tout croche. Puis ça m'a profondément choqué, puis j'en reviens, puis moi j'en reviens pas en fait des critiques élogieuses qu'il a reçues. Ouais. Et je n'ai rien contre Jimmy LaRouche en tant que personne, je le connais pas, sauf qu'on l'a déjà interviewé, puis que tu sais, je le sais c'est qui. Mais ce film-là, pour moi, c'est un affront. Et que ça se ramasse des 3,5 puis des 4 étoiles, des 3 étoiles et demi puis des 4 étoiles. Les mêmes étoiles que vont récolter certains des meilleurs films de l'année, ben pour moi, ça, c'est aussi un affront de la critique et de la réception envers le spectateur, qui ne peut plus ainsi croire, et ça décrédibilise tout le système. Parce que si mon ami Dino est à l'égal de, mettons, les plus grands films québécois de l'année, on ne sait pas encore ce sont lesquels, mais tu sais, quand les Guibord ont des 3 étoiles, des 3 étoiles et demie, puis que je ne sais pas quel autre film ont pas des aussi bonnes notes, ben, donner ça à mon ami Dino, pour moi, ça décrédibilise tout le système. Donc, c'était mon coup de gueule de la semaine.
Ouais, moi, j'ai rien à... Moi, je l'ai vu aussi. J'ai rien à ajouter. j'ai rien à ajouter.
est-ce que t'es de mon ami, de mon avis, ou t'es totalement différent de ce que je dis?
Je suis de ton avis. C'est un film qui, je trouve, qui est un film à propos d'à quel point Jimmy LaRouche a des couilles de faire le film plutôt que le film. Tu comprends ce que je veux dire? Finalement, il y a tellement aussi de faux autour de... Et la ligne, elle est quand même relativement facile à tracer. Là. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux?
C'est ça, c'est ça.
Le marketing joue là-dessus, mais tu sais, le moindrement que tu es un petit peu alerte, je pense que les improvisations... T'sais, hey, à improviser, là, OK? Puis là, évidemment, hey, on va donc se vanter, par exemple, t'sais, de ne pas écrire de dialogue comme si c'était... Bon, comme ça si peut marcher, hein, je veux dire, ça peut marcher, là, de la bonne impro, c'est aucunement un problème, mais, je veux dire, les portions fausses, elles sont complètement évidentes, là, en tout cas, à mon humble avis, je sais pas si ça t'a fait la même chose pour toi aussi.
Ouais.
Puis de voir les acteurs paumés, parce qu'ils sont paumés, ils sont là dans les scènes, ils savent pas comment sont cadrés, comment sont filmés, et ils ont des idées très vagues de tout. Tu sais, moi, je pense qu'en impro, là, ma philosophie très personnelle de l'impro, c'est si tu connais bien le contexte, si tu connais bien ton personnage, puis si tu connais bien le personnage de l'autre, ça va. Tu sais, je veux dire, tu as déjà une matière à travailler. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a aucun de ces éléments-là qui sont remplis. Tu sais, oui, je veux dire, un charisme brut, tu sais, comme Sacha Migliarese, par exemple, c'est une très bonne actrice. Moi, tu sais, je trouve qu'elle a un beau charisme. Elle passe très, très bien à l'écran. C'est pas du tout le problème. Mais elle est paumée. Elle est vraiment paumée devant la caméra. Puis je trouve que c'est malhonnête pour Jimmy LaRouche au nom de... comment dire, de son modus operandi, dont battant et valeureux parce que moi, tu sais, je suis trop hot pour écrire des dialogues. Puis je suis trop... Non, mais comme je te dis, ça se peut, tu peux faire de l'impro, c'est aucunement un problème, mais honnêtement, je trouve juste que ça n'a pas été bien fait. C'est, au final, je trouve que le film proposait des idées X. Je suis pas nécessairement contre les idées X, mais le regard me semble douteux. Et la technique, effectivement, puis moi, c'est beaucoup au niveau des comédiens, encore plus qu'au niveau technique, là, caméra et tout,
ouais.
Et montage et compagnie, encore plus que ça. Moi, c'est vraiment à quel point j'ai vu des talents à l'abandon à l'écran. Tu sais, des Michel Côté qui se pointent le temps d'une scène, puis il essaye d'être profond parce que la scène se prête à ça, puis tu le sens qu'il remue, puis qu'il acte aussi. Je sais pas, tout est moi, j'ai grincé les dents à plusieurs moments dans le film, et puis je te recoupe un peu par rapport à ce que tu as dit. Donc, est-ce que je suis aussi virulent dans ma critique que toi? Probablement pas, mais moi aussi, je suis un peu... je comprends pas non plus l'engouement critique, là, disons ça comme ça, poliment, autour du film. Voilà.
Parce que des fois, ça, faudrait arrêter de vouloir à tout prix être cinéaste, puis avoir plutôt des trucs à dire, des trucs à raconter, des personnages auxquels on croit. Mais bon.
Ben, puis jouer la carte aussi de la mort et de la maladie, c'est une ligne qui est raide, parce que si tu deals avec des sujets aussi forts, aussi difficiles, hein, parce que, je veux dire, on ne fait pas... comment dire, à la légère dans des sujets comme ça. Ouais, ouais, et quand je dis à la légère, c'est pas parce que le film est léger à outrance, c'est pas ça que je veux dire. Je parle à la légère dans la réflexion intellectuelle qui est portée sur des sujets comme ça. Puis sur un... Aussi, t'as pas nécessairement... Si t'es pas un cinéaste intellectuel, et ça se peut, là, c'est tellement pas un problème, je dis ça sans aucune condescendance, aucune. La plupart de mes cinéastes préférés sont comme ça, c'est un Cassavetes est comme ça. Mais il faut qu'il y ait une vérité émotionnelle. Tu sais, c'est ça, finalement, qui va pallier, tu sais, comme peut-être une certaine pauvreté qui peut être ailleurs, pauvreté thématique, je sais pas. Et puis là, je trouve que le film, finalement, tombe un peu, tu sais, nulle part entre les deux. Puis mon ami Dino, hein, c'est pronom, première personne, hein, c'est très Jimmy, je sais pas, c'est un film pour montrer que Jimmy LaRouche, il est donc hot, mais je sais, tu sais, puis je veux pas y prêter d'intention, mais le film sort comme ça, c'est...
Non, puis tout à fait.
Pédant dans sa petitesse.
Et t'as raison de souligner le titre, parce que c'est ça, faut séparer le discours de l'œuvre de l'artiste, mais quand il nomme le titre ainsi, c'est pas anodin quand même.
Je peux-tu penser sur un faux doc québécois qui a vraiment de la gueule? Parce que j'ai pas vu mon ami Dino, fait que moi je peux pas trop me prononcer là-dessus, mais j'ai vu Écarté de Laurence Côté-Colin. Puis je pense que c'est un de mes beaux highlights en fait de Fantasia sur j'ai vu quand même 31 projections, là, fait que j'ai quand même vu pas mal de stock, mais ça a été un gros festival. Cette année, je travaillais temps plein, ça a été c'était vraiment, je suis parti en voyage pendant 3 semaines, là. Genre, je n'existais plus à mon appartement. Mais Écarté, moi, c'est un des films qui m'a laissé un bon souvenir. Un film québécois, on est toujours quand même fiers. Laurence, c'est bon de dire qu'elle a fait l'école Kino parce que ça paraît beaucoup, là. C'est un film produit par la Coop Vidéo qui est beaucoup dans l'esprit d'un film de Robert Morin. On reconnaît beaucoup cette esthétique-là, du faux documentaire, mais rempli de créativité puis d'idées avec les personnages, avec comment en fait elle expose ses personnages. Puis en gros, ça raconte l'histoire d'une réalisatrice qui n'est pas jouée par Laurence. C'est une comédienne qu'on entend derrière la caméra, qu'on voit parfois, qui est en Abitibi et qui s'en va chez un couple qui habite sur le bord de l'autoroute dans une maison un peu crade. Le mec, il est peut-être dans la 45-50 ans. Il vient de sortir de prison. La fille, elle, est dans sa mi-vingtaine. Puis, tu vois qu'elle s'est créée un... En fait, les deux se sont créés un monde dans leur maison, leur propre monde, leur petit univers. Ils sont complètement coupés de tout dans leur maison-là. Puis, la jeune réalisatrice qui va les voir, en fait, c'est pas vraiment une réalisatrice dans la vie, c'est une travailleuse sociale, mais elle décide d'aller filmer le couple, en fait, pour faire un genre de reportage sur eux, qu'est-ce qu'ils vivent, le gars qui sort de prison avec une fille beaucoup plus jeune, qui sort jamais de cette maison-là, qui reste dans cet univers-là. C'est un film, je peux pas aller trop loin, en fait, dans la description dans ce que ça parle, parce que c'est tellement, ça se construit vraiment petit peu par petit peu, puis c'est un portrait de personnage, en fait, c'est le portrait de deux personnages du couple.
Est-ce qu'on sait si le film prend l'affiche bientôt? Ou...
Ouais, en fait, ils ont annoncé dans la salle que ça allait être diffusé en salle, donc je sais vraiment pas exactement où, mais je pense que à l'automne, ils disaient qu'ils faisaient une distribution à travers le Québec.
Okay.
Ce qui est vraiment cool et ce que je recommande fortement.
Ton enthousiasme nous le vend, Rémi.
Ouais, ouais.
sinon, les gars, cette semaine, en fait la semaine dernière, je suis allé voir un film. Un film que j'avais pas mal hâte de voir, que je pensais serait enfin comme le signe de quelque chose de nouveau dans le cinéma américain, qui peut-être allait sortir du carcan de la formule très codée dans laquelle il est inscrit.
Suicide
Squad. Ghostbusters 2016.
Et c'est ça, en fait. Donc, le nouveau film de David Ayer, Suicide Squad, est sorti en salle.
Ah, tu l'as vu?
Okay, man. Non! Puis moi, j'y allais pas de faire ces gars. Ça, c'était mon film le plus attendu de l'été. Là.
Mais, ouais, OK. Non, ça m'étonne pas.
Parmi la production estivale hollywoodienne.
Hein. Moi, j'avais vraiment hâte de voir aussi avec la promo. Puis les critiques ont tellement été mauvaises que ça m'a ça m'a refroidi, là, mais à un point tel que j'ai pas pu aller le voir. Là.
Ouais, ben, c'est ça. C'est ce qui est spécial avec ce film-là. C'est à quel point, au final, pour un film qu'on nous vend comme étant le truc différent, bizarre, dérangé, tordu, est aussi commun et essaie de vraiment s'inscrire dans le moule de tous les autres films de super-héros sortis avant eux et de la tendance à y aller très safe, à faire un peu des clins d'œil aux fans de la franchise et de l'univers qui suivent peut-être les BD ou les séries animées ou peu importe. Donc, on essaie de... Parce que le pitch est assez fascinant. Une sorte de...
Fascinant!
Le pitch est efficace, disons, sur papier, tu sais. Dans une espèce de redite de Dirty Dozen, on assemble donc une troupe de criminels et de meurtriers qui sont emprisonnés à perpète pour leur donner une chance de se racheter leur peine en accomplissant donc des actes pour les États-Unis. Et dans le fond, eux, ils se font lancer une espèce de petite bombe proche du cœur qui explose. Ils ont un iPhone avec une application là, si jamais ils désobéissent. Donc, ils n'ont pas trop le choix. Puis là, tu te dis, OK, cool, des espèces de personnages forts, tu sais, un peu dérangés, qui sont unis par la force des choses, puis qui n'ont pas le choix d'agir en groupe. Ça peut être intéressant. Sauf que le premier problème, c'est qu'on essaie d'humaniser tous ces méchants, puis de montrer que, dans le fond, ils ne sont pas méchants réellement, puis ce n'est pas de leur faute. Sauf peut-être pour Harley Quinn, qui est jouée par Margot Robbie, qui est donc la blonde du Joker. Elle, c'est comme un peu la seule qui est vraiment psychotique, puis qui s'excuse pas du tout, qui a pas de justification, ou presque. Puis que, dans le fond, elle aime juste vraiment ça, comme frapper sur des gens à coups de batte de baseball. Donc, c'est pour ça aussi que c'est peut-être le personnage le plus intéressant du film. Mais les autres, c'est ça, c'est qu'on essaie toutes de leur donner une justification pourquoi ils sont méchants, puis... Fait que... Au final, déjà, les personnages sont assez plats, sont assez clichés, entre guillemets. Mais surtout, c'est que le scénario est vraiment ridicule et ridiculement banal. C'est carrément, là, du coin de rue A, on passe par le coin de rue B, puis on va au coin de rue C. Puis à chaque coin de rue, il y a des espèces de méchants anonymes extraterrestres, pas de visage, pas de nom, qui foncent sur les méchants comme des zombies ou des peu importe, puis qui se font tirer à coups de méga fusils, tout ça. Donc, c'est vraiment comme... C'est presque du jeu vidéo rendu là. T'sais. Puis on sent qu'on essaie justement de s'inspirer de tous les jeux comme Call of Duty, puis Battlefield, puis ces jeux-là qui sont ultra populaires. Pour essayer d'un peu de rejoindre les deux médiums, puis de convaincre le plus grand public. Mais c'est ça, à force de vouloir plaire à tout le monde, ben finalement, le film convainc personne. Puis, la principale force du film, selon moi, ça se situe au niveau des costumes, de l'ambiance générale, tu sais, des décors, tout ça. Mais quand ton scénario ne suit pas du tout, puis que tes personnages sont mal construits, ben c'est vraiment dur de faire quoi que ce soit qui soit comme engageant, puis que t'as le goût de revoir ou t'as le goût de voir la suite. T'sais. Alors que... Oui, vas-y.
Il y a eu beaucoup de controverses aussi là, sur les cuts du film, puis qu'ils ont vraiment chopé dedans. Il y a genre le Joker a été presque effacé du film. Là. Il y a Jared Leto qui est sorti dans les médias pour dire que... Il y avait assez de stock pour faire un film sur le Joker, tellement ils ont coupé de stock. Là. Ouais. Ben, c'est comme, je pense que les studios ont juste repris le Final Cut puis ont fait n'importe quoi pour essayer de plaire à tout le monde.
Ben, l'histoire est assez fascinante. Puis on peut être sûr que dans comme 4 mois, il va y avoir un Blu-ray Ultimate Cut avec 45 minutes de plus pour essayer de vendre encore plus de Blu-ray. Mais ce qui est fascinant, en fait, moi je trouve, c'est que même si c'est une histoire très triste, c'est que donc David Ayer, qui a fait quand même plusieurs films, notamment, je pense que c'est lui qui a fait End of Watch avec Jake Gyllenhaal.
Oui, exact. Fury, il a écrit Training Day.
Ouais, donc il faisait le montage du film Suicide Squad. Puis là, ben, tu sais, une production comme ça, à genre 200 millions de dollars par DC Comics, tu sais, ben, t'as plusieurs têtes pensantes derrière le projet. Hein. Tu peux pas juste faire ton Final Cut tout seul à la Malick sur plusieurs mois, plusieurs années, puis comme avoir le champ libre. Là. Donc là, éventuellement, il était pas satisfait et il lance un trailer sur la toile au Comic-Con ou peu importe. Puis là, les réactions sont insane. Les gens capotent sur la bande-annonce, sont comme « Oh mon Dieu, c'est tellement bon, ça va être cool. » Je pense que c'est le clip avec Bohemian Rhapsody. Puis ça, cette bande-annonce-là a été montée par une maison de production qui font des bandes-annonces. Je pense qu'on a perdu Pascal, si peux-tu?
Ouais.
Donc là, et cette compagnie qui se spécialise dans le montage de bandes-annonces a été engagée par les producteurs pour faire un montage... tout à fait différent de ce qui était fait jusqu'à présent. Et selon ce que j'ai compris, j'ai écouté un podcast qui en discutait, c'est que les deux montages ont été faits parallèles et ils ont été les deux donc complétés. Et les deux versions du film ont été testées sur des audiences. Et c'est la version donc réalisée par la compagnie qui font des bandes-annonces qui a été préférée. Et ça se ressent un peu dans le montage là, qui est très, c'est très rapide. Il y a beaucoup, beaucoup de cues musicaux, de genre des tunes de pop. Puis ces cues-là qui devraient, dans un film, là, vraiment faire comme wow, c'est trop bon. Là, t'as, mettons, t'as Seven Nation Army, des White Stripes, t'as Bohemian Rhapsody, t'as du Rolling Stone. C'est des classiques, sauf qu'ils sont apposés à des séquences visuelles vraiment inintéressantes. Donc, c'est juste des bonnes tunes, finalement. C'est pas comme... Il n'y a pas de symbiose. Il n'y a pas un effet que les deux s'améliorent mutuellement. Là. Donc...
Il n'y a pas la vision d'un réalisateur en arrière qui fait comme... Ça sert à quelque chose à l'histoire. Là. C'est juste ça va être cool parce que ça va être cool.
Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est vraiment décevant. Mais c'est ça. Donc, au final, j'ai pas grand-chose à dire de Suicide Squad. Mais tu sais, ça me faisait beaucoup penser à Guardians of the Galaxy, évidemment, ou Sin City. Ich. Genre, tu sais, deux espèces de projets où on essaye de faire des équipes de gens qui sont pas trop genre à travailler en équipe. Puis, tu sais, là où Guardians of the Galaxy marche, selon moi, c'est ouais, beaucoup c'est dans le casting, dans la chimie, dans le fait que, tu sais, même si... Guardians of the Galaxy, t'écoutes pas nécessairement le film en disant « Waouh, le scénario m'apporte des surprises, puis c'est du jamais vu. » Mais la chimie est là, puis c'est le fun d'être avec l'équipe, tu sais.
Ouais, puis les personnages sont simples à comprendre, ça va vite, tu sais c'est qui, sans avoir besoin de trop d'étirer le backstory, puis le, tu sais, je veux dire, tu les rencontres, c'est tous des personnages que la plupart du monde qui les voit à l'écran ne savent pas du tout c'est qui, mais on comprend vite qu'est-ce qu'ils représentent, puis c'est pas, on n'a pas besoin d'avoir tout un backstory à la Suicide Squad. Là.
Ouais. Puis tu sais, c'est quand même tout un défi que c'est quoi le nom du réalisateur déjà qui a fait.
David Ayer.
Non, pour Guardians of the Galaxy.
James Gunn.
James Gunn, tu sais, c'est quand même tout un défi qu'il a fait de rendre un personnage mono-mot. tu sais, qui dit juste un seul mot, de le rendre attachant, puis de le rendre aussi cool. Ben, en fait, il dit trois mots, là, techniquement. Donc, ouais, c'est ça que ça manquait à Suicide Squad. Puis, par rapport à Sin City, ben, selon moi, ce que ça manquait, c'est un peu plus d'inspiration au niveau visuel, puis un peu plus. Tu sais, Sin City, on dira ce qu'on voudra, mais. Ça quand même, il y a une ambiance qui est là, puis c'est efficace.
Moi, j'aime beaucoup Sin City.
Ah, je vais juste répondre à Pascal, excuse-moi. Oui.
Hey Paul, il y a une panne de courant dans tous les quartiers.
Pour vrai,
quand ouais, même. Ouais, ça a comme genre qu'est-ce tout que... fermé, je suis comme...
je vais te mettre sur le speaker, ok? T'es là, Pascal?
Ouais, je suis là.
Fait que là, il y a eu une panne de courant dans son quartier, puis tout a déjà
mis. Oh non!
Ouais, c'est ça.
T'as pas... Ah non, toi, t'entends pas Rémi, mais en gros... Ouais, fait que là, est-ce que t'avais dit que t'as perdu ton enregistrement au complet, Pascal?
Non, mon enregistrement, il roule encore.
Ah, ok, c'est sur ton portable, en
fait? Ouais, mon laptop, il roule, là.
Ok, dans le fond, là, je suis en train d'enregistrer avec Rémi, je vais juste finir sur Suicide Squad, puis dans le fond, je clôt l'épisode là, puis tu feras du montage?
Ouais, je sais, hein, excuse-moi, là, c'est ça, ça a tout... Ça a tout fermé,
oh
là.
Fait que perdu internet, là, tout
en noir, là.
Ouais, on n'était pas dû, là.
Ouais, non, c'est ça, si, va.
Ouais, moi, je vais faire ma conclusion comme je fais d'habitude, puis j'expliquerai peut-être que t'as une panne de courant ou peu importe, là.
Ouais, c'est ça, c'est quand même drôle.
Ouais.
All right.
Salut.
OK, bye.
Bon, tu parles d'un épisode. D'accord, donc... okay. Là, j'avais fini sous Suicide Squad. Donc, c'est ça. Alors, moi, je recommande pas nécessairement d'aller voir Suicide Squad, mais bon, ceux qui veulent y aller vont y aller de toute façon. Mais c'est juste que, tu sais, mettons, s'il y a une suite, ça m'intéresse pas plus qu'il faut. Alors que il y a d'autres franchises que j'aime plus, que je suis plus investi. Donc, bref, c'est ça. Et nous, on va conclure cet épisode un peu plus rapidement cette semaine parce que là, on vient d'apprendre qu'il y a une panne de courant dans le quartier de Pascal. Donc, c'est pour ça qu'il s'est déconnecté de la conversation. Donc, ça va être notre point de vue pour cette semaine.
C'est tellement pas... J'avais tellement hâte de parler de Ghostbusters, là.
Ouais, ben écoute, peut-être qu'on aura la chance de le voir d'ici le prochain épisode, puis on pourra avoir une discussion plus longue dessus.
Non, allez pas voir ça sérieusement, là. Non, je veux juste le dire comme ça, mais dépensez pas votre argent pour voir ça, là.
OK, bon, ben on va suivre peut-être ton conseil. Nous, on va se quitter sur la bande-annonce du film Hell or High Water. de David McKenzie. C'est un western qui a l'air franchement pas mal sur des braqueurs de banque avec Jeff Bridges notamment. J'ai bien hâte de voir ça. Puis c'est un peu le désert en ce moment dans le au cinéma. Pardonnez le jeu de mots. Donc, il n'y a comme pas grosse sortie d'ici la fin du mois d'août.
Alors, non, il y a Ghostbusters.
Il y a eu ça, mais ça fait quand même déjà deux semaines qu'il est sorti. Donc voilà, nous, d'ici là, on va aussi aller voir qu'est-ce qui se passe du côté du FFM, vérifier, être témoin qu'il existe toujours. Et on sera de retour pour le prochain épisode. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Henriot et j'étais avec mon collègue...
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
Ouais.
You know, the bank loan, just enough to keep your mama poor. Thought they could swipe her land.
It's a big bank. It's too big.
That's what she said.
Now they can foreclose on Friday.
So come hell or high water, get the money to the bank on Thursday.
And then you are free and clear.
Little brother,
let's go get that money.
Good morning, folks! Open the drawers!
You got a gun on you, old man?
You damn right I got a gun on me. Y'all gonna steal my gun, too?
We ain't stealing from you, we're stealing from the bank.
Woo! You hear about these bank robberies?
You may get to have some fun before they send you off to the rocking chair yet.
I may have one hunt left in me.
It's mama, and that been a while.
3 months.
Bank breathing down her neck.
Everybody, get on the ground!
Y'all been here for a while?
Long enough to watch a bank getting robbed has been robbing me for 30 years.
How do you manage to stay out of prison for a year?
It's been difficult.
Don't stand up!
These boys know exactly what they're doing. They're trying to raise a certain amount, that's my guess.
Let's go! Run! Run!
Toby.
It's a good thing you're done.
More down it.
Every step of the way.
Want a little advice?
Go see your boys and mom.
You know, you talk like we ain't gonna get away with this.
I never met nobody got away with anything, ever.
Then why in the hell did you agree to do it?
Because you asked, little brother.
Mama, take this badge off of me.
All right, I think I got these boys figured.
He's got no record. He's never been arrested. He don't fit the bill, Marcus.
You may be hearing a lot of things about me and your uncle.
It's getting dark, too dark to see.
Whatever I hear, I won't believe.
No, you believe it. I did all of it.
Love you, Toby.
Mean it.
Love you, too.
You want to get us killed? Huh?